Journée mondiale de la radio, France Culture est sur FIP.
Et FIP est sur France Culture, bref, on est senti dessous. Le rendez-vous, Laurent Goumard. Laurent Goumard, c'est sur France Culture.
Eh bien, on partage tout ce soir dans le rendez-vous en direct sur France Culture. Il sera question de FIP, de France Musique, de voix, de comédienne, de violoncelle, de chef d'orchestre, de trafic et même de carrefour avec Émilie Blanc-Metzinger et Frédéric Labussière, deux FIPettes, deux voix emblématiques de cette chaîne musicale urbaine. Benoît Lagan.
L'occasion de revenir sur un programme musical entre world, chansons, jazz, voix féminine, agenda culturel et petites infos susurrées afin d'adoucir les voyages d'automobilistes coincés dans les bouchons.
À 19h30, la session sera live ce soir, vendredi, avec programme jazz, le groupe Agathe Jazz Quartet. Benoît, quelque chose à dire ?
Oui, nous interpréterons un titre en direct, extrait de leur album Feeling Alive.
19h35, plateau au Carrefour avec Frédéric L'Odéon, la voix fer de lance de France Musique à la tête de son Carrefour de l'Odéon, ou comment programmer et raconter la musique classique sans jamais la confisquer, Benoît Lagan.
Et avec Frédéric L'Odéon, on reviendra sur son art de la programmation pour celui qui fut violoncelliste et chef d'orchestre avant de devenir le visage du classique au Grand Échiquier, l'une des voix du classique à Radio France.
Et d'abord, c'est l'actualité culturelle, le supplément week-end de Benoît Lagan que l'on ouvre d'abord sur le son du jour de Zoé Sfez. Et ce soir, on est entre Saint-Valentin et Programme Radio.
Serre-moi dans tes bras, embrasse-moi longtemps.
Allô ?
Embrasse-moi.
Allô ?
Allô ?
Allô ?
Vous m'entendez bien ?
Je vous entends admirablement.
Vous êtes couché, allongé sur un divan ?
Eh bien, à dire vrai, je suis presque toujours couchée.
Je vous ai reconnu.
Qui suis-je ?
Juliette Gréco.
Sale bête.
Et voilà. Il n'y a rien à faire.
Comment ? Non, mais ça, c'est vraiment répugnant.
Trop connu.
Non, c'est dégoûtant. Comment ? Comment que savez-vous que je suis toujours couchée, d'abord ?
Ben, je ne sais pas. Vous avez une voix couchée.
Oui, ça, j'ai une voix...
C'est un très joli compliment dans ma bouche.
J'ai une voix allongée,
oui,
et chaude,
voix...
et j'ai une voix de dessous de lit.
Oui, une voix très très belle, avec des soieries, des tapisseries. Et il y a des oiseaux langoureux dans votre voix.
C'est donc votre son du jour, Zoé Sfez, vous qui êtes une voix couvre-lit.
Ça, c'est extrêmement méfiant de me dire ça après tant d'amour. Voilà, c'était un extrait.
C'est toujours une voix horizontale, c'est toujours ça de gagner.
J'ai la prétention d'être légèrement verticale aussi à quelques heures, en général à cette heure-ci.
Exactement.
Alors, ce que vous avez entendu, c'est un extrait de l'une des émissions qui a fait les riches heures de la radio, en tout cas les heures coquines et langoureuses. C'est une émission qui s'appelait Flirtissimo, imaginée, animée ou plutôt susurrée dans les années 60 ou 70 par le très regretté José Arthur, qui nous a quittés le 24 janvier dernier. Chaque jour, son assistant demandait à une jeune fille inconnue rencontrée dans la rue, au café, de venir pendant une heure confier ses aspirations, ses rêves, son cœur à José Arthur sur France Inter, dispositif particulier, puisque les deux confidents étaient allongés sur un divan. Alors, fort de son succès, José Arthur a repris le concept en invitant cette fois une vedette, ici donc Juliette Gréco, qu'il interviewait dans le noir et qu'il fallait évidemment reconnaître, ça ne tenait pas très longtemps. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? Car en ce 13 février, journée mondiale de la radio, mais aussi, et c'est fort important, veille de Saint-Valentin, sort un superbe disque délicieusement rose, je ne l'ai pas là, mais il est très joli, qui réunit quatre grandes éditions de Flirtissimo, où José Arthur marivaude, flirte même carrément on peut le dire, avec Juliette Gréco, Marie Laforêt et Bernadette Lafont. La liberté d'expression et la volupté de leurs échanges est absolument déconcertant, désarmant pour aujourd'hui. Quelques petites phrases. Mon amour, je n'en peux plus tant la passion que j'ai pour vous me dévore. Je suis profondément éprise de votre voix adorable, lui dit l'une. Le soir, je pose mon poste de radio sur le ventre. J'écoute votre voix chaude à côté de mon gros cochon de mari qui ronfle. Voilà, ça se savoure sans limite. Ces deux éditions Radio France.
C'est la Saint-Valentin demain.
C'est la Saint-Valentin demain. Que faites-vous, Laurent Goumard ?
Aucun intérêt. Votre mec est rentré du Brésil ?
Ah, ça on le salue bien bas, il est rentré du Brésil.
Tout va bien ?
Tout va très bien.
Il est en pleine forme ?
On vous remercie.
Merci. Merci. On se retrouve lundi alors.
Avec grand plaisir.
Tout de suite, on part bien avec la suite du Journal de la Culture. Et le vendredi se poursuit toujours avec le supplément week-end. Bonsoir Benoît Lagan.
Bonsoir Laurent Goumard. Bonsoir
et
à
pour
tous.
Commencer votre séquence, eh bien, c'est celle du téléspectateur hebdomadaire.
Oui, comme chaque vendredi, je m'arrête sur l'actualité des séries. Et cette semaine, l'actualité des séries, elle était bien triste. C'était l'annonce mercredi dernier de la mort de Roger Hanin. L'occasion pour moi donc de revenir sur la série télé dans laquelle le comédien incarnait le commissaire principal Antoine Navarro. d'octobre 1989 à juillet 2007, soit 18 ans de service pour une série créée par le producteur Pierre Grimblat et l'écrivain Tito Taupin, deux fans de polar.
Et Navarro, ça ressemblait à quoi ?
C'est à toi de le dire, Navarro, mais ça sent le crime crapuleux à plein nez. Par contre, moi, j'ai trouvé un mouchoir taché de sang dans la poche du pantalon. Je l'envoie au labo.
Un mouchoir taché de sang ? Il est peut-être fiché. Martin ?
Oui, patron. Un chien.
Un chien ?
Très bien, Martin. T'as été très bien. Alors, un chien en laisse, avec plein de poils, un peu comme celui de ma belle-sœur.
Je connais pas ta belle-sœur, moi. Reviens, Martin.
Voilà, vous avez votre réponse, Laurent Navarro. Ça ressemblait donc un peu à ça.
Ça avait l'air super. Et alors, qui avez-vous donc contacté pour nous en parler ?
Eh bien, exceptionnellement, à l'occasion de cette journée mondiale de la radio, j'ai décidé d'aller rechercher dans mes archives radiophoniques personnelles.
Ça veut dire que personne n'a voulu répondre au téléphone ?
Non, pas du tout. C'est simplement que je trouvais bien. Il y a 6 ans, avec mon comparse Eric Véra, nous avions produit pour France Culture une série d'émissions sur l'histoire des séries télévisées. Et nous avions interviewé à l'époque le réalisateur Philippe Tribois, qui a fait ses débuts sur Navarro, et le scénariste Frédéric Krivine, créateur de PJ et d'un village français aujourd'hui, et fin connaisseur de l'histoire industrielle des séries françaises.
Et quel était leur regard alors sur Navarro ?
Eh bien dans cette émission, donc diffusée le mercredi 7 août 2009 à 19h...
Autopromo.
Longtemps après. Hein.
Scam.
2 ans tout juste après l'arrêt de la série, Philippe Tribois et Frédéric Krivine, loin de critiquer Navarro, nous expliquaient ce que cette série avait changé à la télévision française, tant sur le plan de la production que sur le plan de l'écriture télévisuelle, et il nous racontait que cette série avait été créée en fait sous la télévision publique par un proche d'Hervé Bourges, Pascal Joseph, et Claude de Givray, proche de Truffaut et qui était directeur de la fiction de La Une. Extrait.
Navarro, c'était extrêmement nouveau visuellement. C'est-à-dire le commissariat de Navarro, la manière dont la figuration bougeait, le travail, la sensualité de l'image. Et qu'est-ce qui a plu dans Navarro ? C'était cette nouvelle génération.
L'idée du 90 minutes non feuilletonnant, c'est une idée de Pascal Joseph. Pas du tout une idée, disons, des méchants castrateurs de Bouygues avec leur casque orange sur la tête. Et de fait, ils commencent à développer un peu ça parce qu'ils avaient la série noire qui existait déjà, qui était une collection de 90 minutes. Et puis, quand la nouvelle équipe arrive, il demande à De Givray, qui pensait qu'il allait être viré, d'ailleurs, par la nouvelle équipe Bouygues, qu'est-ce que vous avez en stock ? Et donc, il dit qu'il y a ce vague projet de 90 minutes, non feuilletonnant, et il y avait déjà, je pense, le concept en 3-4 pages de Navarro qui avait été élaboré par Tito Taupin et Grimblat. Il faut une vraie soirée, il faudrait des films, on n'a pas de catalogue de films, on a déjà payé TF1 assez cher. Donc, est-ce qu'on peut faire des films d'une heure et demie en télévision qui vont combler notre catalogue de films de cinéma si faible ? Et donc Navarro a été conçu, écrit, produit, et ça a été un succès immédiat.
Pas joli joli, hein. À première vue, la mort remonte à quelques heures. Trace de lutte, coups sur le visage, rien d'autre d'apparent.
Alors, si vous n'avez jamais vu Navarro, notez que la chaîne de la TNT D8 rediffuse régulièrement les épisodes et il y en aura plusieurs ce samedi soir.
Peut-être des réactions de la part de nos invités. Frédéric Lodéon, je crois que vous êtes un acharné.
Ah oui, écoutez, à une époque, je faisais mon émission de France Inter à 21h. Ça a duré un an. Puis après, je suis revenu à 16h. J'étais un peu triste de revenir à l'horaire idéal pour une seule raison. Je ne voyais plus Navarro l'après-midi. Parce que sinon, c'était un plaisir extraordinaire. C'est le personnage de Roger Hanin, surtout qui est prodigieux, large, généreux, truculent. C'est ça qui m'a toujours plu.
Frédéric Labussière, Émilie Blond-Metzinger, des souvenirs liés à Navarro ? Peut-être pas.
Pas franchement à Navarro, mais là, ce qui m'a interpellée, c'est la sensualité de Navarro, donc je vais regarder.
Frédéric Labussière, oui, Émilie Blond-Metzinger.
Oui, souvenir assez confus d'une prime jeunesse, on va dire, voilà,
petite.
Vraiment. Et alors, surprise de me dire Navarro, et là, j'apprends qu'il s'appelait Antoine, par exemple. Je me dis, ah,
il avait
Navarro
un prénom.
S'appelait Antoine, voilà, c'est ça.
Et l'on enchaîne avec la revue d'actualité de la semaine spéciale radio, samedi.
Eh bien samedi, c'était Christopher Baldelli. Dans une interview au quotidien Le Monde, publiée donc samedi dernier, le président de RTL estimait, je le cite, que à la lecture des événements de ce début d'année, veuillez comprendre l'attentat contre Charlie Hebdo, sa décision de maintenir Éric Zemmour sur son antenne se révélait fondée. On ne peut pas d'un côté regretter des actions contre la liberté de la presse, dit-il, et d'une autre, faire une police des médias, voire organiser une forme de censure. Arrêtons avec la pensée unique et le consensus factice. Fin de citation.
Mercredi, c'était programme réduit.
En effet, quasiment toutes les stations de Radio France diffusaient leur programme par intermittent ce mercredi dernier en raison d'une grève de 24 heures à l'appel de plusieurs syndicats pour dénoncer, je cite, un étranglement budgétaire du groupe en proie à un lourd déficit. Le site du Huffington Post relayait dans ses pages dès le jour même quelques tweets d'auditeurs apparemment solidaires et saluant le programme musical diffusé en lieu et place des programmes. Pour Nanig, Radio France est apparue mercredi comme, je cite, la meilleure radio musicale du monde. Et Alice déclare que même une grève ne m'en fait pas quitter Radio France.
Jeudi, c'était Morandini.
En effet, l'animateur du grand direct des médias de la radio Europe 1, Jean-Marc Morandini, spécialiste des exclusivités, était très, mais alors très très content. Jeudi, depuis la nomination de Bruno Patino au poste de directeur général délégué au programme de France Télévisions, ce dernier n'avait jamais répondu aux questions de Jean-Marc Morandini. Il avait toujours décliné l'invitation. L'animateur d'Europe 1 était donc très content de le recevoir. Il avait donc de très nombreuses questions à lui poser, à poser à Bruno Patino, qui fut notre directeur ici à France Culture, extrait.
Vous avez un passé à Télérama, au Monde, à France Culture. On a même dit à l'époque que vous n'aviez pas de télé, c'est vrai?
Oui, j'ai entendu ça, mais non, c'est faux, évidemment.
Vous regardiez quoi la télé avant d'arriver à France Télé, quand vous étiez à France Culture, par exemple? Vous regardiez quoi? Vous regardiez la télé populaire ou la télé chiante?
Je ne sais pas la différence entre les deux.
Morandini a découvert France Culture, hein. c'était bien ce jour-là.
Et aujourd'hui?
Eh bien, à l'occasion de cette journée spéciale France Culture FIP, je termine par l'actualité mise en avant par le site de la chaîne fipradio.fr. Et sur le site de FIP, Ghislain Chantepie met en avant aujourd'hui IBI, les deux sœurs jumelles franco-cubaines. Un duo découvert, écrit-il, lors de l'édition 2015 d'Eurosonic. Les raisons de cette une, eh bien, IBI vient de mettre en ligne avec 3 jours d'avance sur le site internet du Guardian leur premier disque, extrait. Wash my soul. I will come to your river. Wash my soul again.
Des réactions à ce que l'on vient d'entendre de la part de nos invités, Frédéric Lodéon par exemple, sur cette grève de mercredi?
Écoutez, je pense qu'elle est tout à fait compréhensible parce qu'il y a de grosses inquiétudes sur la maison, sur le budget, sur certaines chaînes, sur certains métiers et personnels. Donc je ne suis pas amoureux de la grève du tout, mais là je me suis senti concerné aussi, j'avoue. Bah, tant pis, il n'y a pas eu de carrefour de Lodéon, mais je crois que c'est plus important encore qu'il y ait eu une prise de conscience forte.
Les contraintes budgétaires laisseraient présager, certains en parlent, de la fusion des orchestres. C'est passé de 2 à 1. C'est une erreur, une possibilité pour vous?
Une possibilité, certainement. On en parle depuis très longtemps. C'est un serpent de mer, en quelque sorte. Mais je ne sais pas, c'est en tout cas historique. Ce serait pour la première fois. On a toujours parlé de cette dualité, cet orchestre philharmonique qui date de si longtemps, le national qui est là depuis 34 aussi. Mmh. Et on a dit il y a trop de musiciens et sans arrêt, les politiques sont revenus. Et puis, chaque fois, il y a eu des garde-fous. Mais là, on nous annonce des chiffres assez affolants de déficit, de manque de liquidité pour la fin de l'année. Alors, je ne sais pas. Tout le monde est très inquiet, tout ce que je peux vous dire. Tous mes amis musiciens, en tout cas, ils sont vraiment, vraiment dans un état assez... Ils sont affolés, tout simplement.
Frédéric Labussière et Émilie Blond-Metzinger, Frédéric Labussière?
Oui, moi, ce que je trouve dommage, c'est que pour une grande maison comme ça, qui travaille sur l'audio... Enfin, la communication, on est censé être des communicants, je trouve que les choses sont très, très opaques, et je pense que c'est ça qui inquiète un peu tout le monde. On entend des rumeurs, des démentis de rumeurs, on ne sait pas s'il y a de la fumée sans feu ou pas. Et je pense qu'on serait un petit peu plus apte à comprendre ce qui se passe, parce que bon, les choses changent, les choses évoluent. Le déficit, on entend parler de ça depuis quelques temps.
Là, on entend précisément, là, les chiffres sont assez précis.
Hein, oui, mais après, comment ils vont régler ça? C'est là où je trouve que les choses sont assez floues.
Émilie Blum Metzinger.
Oui, je suis absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire c'est effrayant, enfin, c'est toujours la crainte de comment ça va être pris en charge, comment est-ce que ça va être réglé, à quelle sauce chacun va être mangé, les orchestres, beaucoup d'autres choses. Les chiffres annoncés de déficit sont colossaux, donc ce qui est sûr, c'est qu'il y aura du mouvement. Alors après,
les fusions de chaînes, par exemple, on parle, hein, c'est les rumeurs, hein, bien sûr, France Musique, oui. Et FIP.
C'est effectivement ce qui est annoncé. Enfin, il y a eu, au mois de décembre et puis au mois de janvier, deux communiqués qui, après, ont été démentis. Alors, c'est ça. Est-ce que ce sont des rumeurs? Est-ce que c'est avéré? Est-ce que c'est fondé? On n'en sait rien. Après, pour reprendre l'expression de Frédéric Labussière, il n'y a peut-être pas de fumée sans feu. Donc, voilà, on est pour l'instant les derniers informés de ce qui se passera. Mais il y a un mouvement en marche et il va bien falloir le suivre ou se
récolter.
Et puis, il y a eu, pour FIP, le rapprochement avec RF8, la plateforme musicale numérique. Comment vous percevez-vous? Est-ce que c'est un enrichissement pour FIP? FIP, un enrichissement pour cette plateforme? Vous le voyez comment?
Moi, j'ai l'impression que c'est pas très concret encore pour l'instant. Enfin, Frédéric, arrête-moi peut-être, mais je sens pas ça très très concret, en fait. Ça a bien évidemment impacté les programmateurs, je crois, qui ont été amenés à créer des playlists qui sont diffusées après, donc, sur cette plateforme RF8, mais c'est encore assez confus. Nous, au niveau de l'antenne, je sens pas un impact démesuré. Je suis un peu entre deux eaux. C'est pareil, on nous en parle, mais pour l'instant, il n'y a pas encore de cadre très précis. Non,
On nous en parle pas vraiment, on en entend parler.
Frédéric Labussière.
Entend parler, on se dit effectivement s'il y a une fusion entre RF8 et FIP, que deviendront les metteurs en ondes, les ingénieurs son, et nous-mêmes, les FIPettes, les animatrices, parce que par définition, RF8, c'est que de la playlist musicale, donc...
De l'enregistrement.
Ça fait partie du reste, on entend aussi d'autres choses et son contraire, donc on ne sait pas.
19-20, c'est le rendez-vous sur France Culture.
Plateau, respirez, vous êtes sur FIP. Avec vous, donc, Frédéric Labussière et vous, Émilie Blom-Metzinger. Deux voix identifiées, donc, à la radio FIP, la radio musicale du groupe Radio France, créée il y a 44 ans. Radio avec laquelle France Culture partage son antenne toute cette journée. À midi, Caroline Brouet recevait Luc Frelon, un jeune programmateur de FIP. Ce soir, c'est vous qu'on reçoit, avec à vos côtés une autre voix, Frédéric Laudéon, une voix star de France Musique, en cette journée internationale de la radio. Avant de revenir sur FIP avec vous, peut-être une question d'abord à vous trois. Puisque vous êtes tous à cette maison de la radio, vous vous souvenez de vos premières prestations au micro? Ah, je vois qu'il y en a une qui hoche la tête. Émilie Blom-Metzinger?
Moi, c'était chez vous, en fait, sur France Culture. J'ai commencé aux fictions France Culture avec un...
Alors, comme comédienne?
Voilà, absolument comme comédienne. Et c'est Myron Merson, un réalisateur qui n'officie plus depuis 3 ans maintenant, qui était venu me voir jouer sur une scène nationale à Lyon et qui m'avait dit, bah écoute, voilà, pourquoi pas, si ça peut t'intéresser. Voilà, c'était un personnage très, 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 très particulier. On partait sur des fictions à l'époque qui duraient une semaine. C'est-à-dire, on faisait 9h-19h. Dans les studios là que vous connaissez bien, qui sont très proches de celui-ci, et on partait pour des épopées. C'était super, mais c'était pas du direct, hein, là. J'ai pas vécu de direct sur France Culture, mais en tout cas première expérience dans la maison.
Frédéric Laudéon, vous c'était en tant que musicien?
Ah oui, alors, si on remonte à tout cela, c'était en 69 quand j'ai fini le conservatoire et on m'a demandé de venir à France Musique avec mon violoncelle et il y avait un musicologue et qui parlait des partitions, de sonate de Beethoven et moi avec mon pianiste Jivko Paunov, qui est un merveilleux pianiste venu de Bulgarie, et bien, j'ai joué des petits extraits, il commentait ce musicologue et voilà, et j'ai gagné, je vais retrouver la feuille de paye, 47 francs à l'époque, c'était mon premier cachet, donc 69, et après je suis revenu en 89, 20 ans après.
Passage au micro.
Au micro, vraiment, là, pour parler devant. Et c'était Brigitte Vincent, productrice à France Inter, qui m'avait demandé de faire une chronique l'été, une petite demi-heure, pendant le mois d'août, la première semaine du mois d'août. Et puis, après ça, il y avait Claude Jean-Philippe qui faisait une partie sur le cinéma, et puis il y avait ça. Et puis, comme ça avait bien marché, moi, ma petite séquence musicale, on m'a demandé de revenir à la fin du mois d'août. Et je ne voulais pas, parce que j'étais à Belle-Île avec la mère de ma fille, c'était le paradis. On m'a poussé à revenir quand même, je suis revenu. Et de là, et ben c'est arrivé. Pierre Bouteiller là m'a demandé un jour de faire la grille d'été en 92, de remplacer un ami à lui qui faisait la musique classique sur France Inter. Et puis je suis revenu en 93 encore pour la grille d'été. Et là, le public a dit on veut que celui-là reste. Et Pierre Bouteiller m'a dit est-ce que tu aurais le temps? J'ai dit je vais m'arranger, ça me plaît tellement, voilà.
Et vous, Frédéric Labussière?
Alors moi, c'était un vendredi 13 comme aujourd'hui, mais un vendredi drôle. 13 juillet. Et je me souviens que je savais 15 jours avant que j'allais faire ma première antenne en direct sur FIP. J'ai perdu 5 kilos d'angoisse avant d'arriver ce 13 juillet, je m'en rappelle comme si c'était hier. Et j'avais donc ce voyant rouge qui n'était pas encore allumé devant moi. Et j'avais écrit sur un papier devant moi, « Bonjour, vous écoutez FIP, il est 7 heures ». Mais c'était écrit, il fallait que je l'écrive, parce que j'avais peur de me planter. Et le rouge s'est ouvert, et là j'ai eu l'impression de passer par une bombe, mon sang s'est vidé à l'intérieur de moi, et j'ai dit, bonjour, vous écoutez FIP, il est 7h.
Avec une voix pareille, je vous aurais viré.
Non, parce que je me suis vite rattrapée.
J'en étais sûre, vous l'avez entendu.
Mon premier micro sur FIP, j'ai dit Mizuc. au lieu de musique.
Je vous aurais viré aussi.
Musique. Ah mais alors, et là, j'ai perdu connaissance. J'ai...
Une qui perd des kilos, l'autre qui perd connaissance. Il est beau le travail sur FIP. Benoît.
Pour travailler sur FIP, on passe un casting.
Comment ça se passe?
Tout à fait.
Frédéric Labussière.
Alors pour moi, ce qui s'était passé, c'était donc j'ai commencé en juillet parce que les FIPettes prennent des vacances et donc ils avaient convoqué on était 8 ou 9 jeunes femmes à s'être rendues porte B, 3e étage de FIP, donc là aussi totalement liquéfiée de trac. Et on est casté en fait sur notre grain de voix, évidemment, et moi je travaillais avec ma voix déjà depuis plusieurs années. Donc,
comédienne aussi.
Comédienne aussi, absolument. Et aussi des voix pour la pub, des voix sur Canal, comédienne sur scène, mais aussi des voix. Et mon agent et une de mes amies qui travaille dans la prod son me poussaient vraiment en me disant « Fred, fais un truc avec ta voix, un truc dans ta voix, mais non, essaye FIP, mais non, plaisantez. » Non, moi j'étais auditrice de FIP, j'arrivais de Grenoble dans les années, fin des années 80, mon Dieu, ça ne bigre, ça ne me rajeunit pas. Et j'avais découvert FIP, donc radio dans la voiture, je me suis dit « Waouh, c'est quoi ce truc, j'adore, c'est génial, la musique, les voix, l'humour. Hein » Et on me disait « Vas-y, c'est toi, ça te ressemble, c'est bon. »
Alors ce petit exercice que vous avez fait?
Et donc c'était, on était enfermés dans une pièce, une petite pièce toute seule, avec une pile de dossiers de presse culturels, des concerts, des expos, du théâtre, etc. Et on avait top chrono, un quart d'heure, pour écrire un papier qui, une fois dit en direct, ne durait pas plus de 30 secondes. Donc c'est une grosse pression. Donc moi j'avais choisi Marcus Miller. Au bout d'un quart d'heure, effectivement, la directrice à l'époque de FIP était venue me chercher dans la pièce. J'avais les genoux qui faisaient clonk-clonk. Et on nous met dans un studio pendant une demi-heure en comment on appelle ça, en
simulacre,
de direct, du faux direct. Et en fait, on nous tend des pièges. C'est-à-dire qu'à l'époque, on faisait encore de la circulation. Donc, je fais mon papier Marcus Miller. J'avais un chef d'antenne derrière la vitre. Il me dit, là, on va faire une petite circulation. Alors, tu notes, à 86 intérieur, 6 km d'embouteillage. Je prends donc papier et stylo qui était sur la table du studio. Le stylo ne marchait pas. Et j'appuie sur le micro d'orgue. Je cherche le micro d'orgue. Le stylo ne marchait pas. Tu te débrouilles. Micro dans 40 secondes. D'accord. Et j'ai fait, je me suis lancée, je me suis dit, allez, je vais dire que voilà, j'avais vaguement retenu qu'il y avait 6 km sur la 86 intérieure. Et je me suis lancée, et voilà, ils m'ont gardée.
Émilie Blanc-Metzinger, pour vous aussi, pareil, c'est le même genre de casting?
Ben oui, alors c'est étonnant, parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on a partagé ou dont on a pu se parler. Et moi, je suis arrivée en 2008, donc quand même après Frédéric Labussière. Et c'était, l'audition, le casting était le même, dans le sens où c'est pareil. J'ai eu ce moment de 20 minutes enfermée dans une salle avec une montagne de papier. L'exercice était le même. Alors moi, j'ai choisi... il fallait parler des trans musicales de Rennes. Et ce que je trouve extrêmement délicat avec les trans musicales de Rennes, c'est que par essence même, ce festival, ce ne sont que des nouveaux artistes inconnus. Donc, c'est-à-dire, il faut pouvoir...
Il y a une ligne directrice, en effet.
Voilà. Il faut pouvoir les promouvoir, avoir l'impression qu'on les connaît, qu'on est allé les chercher chez eux, dans la chambre de leur mère et tout. Il y a des 158 pages avec des tout petits encarts, avec des noms imprononçables et tout. Je dis, ouais, non mais c'est bon, on va faire comme si on les connaissait. Donc c'était un petit peu compliqué, mais bon, j'étais partie là-dessus. Et le pire exercice pour moi, c'était la météo. Ça m'effrayait, quoi. La météo. Enfin, pour moi, la météo, justement, c'était pas moi, quoi. C'est France Info, 6h45. Mais non, ça, c'était effrayant. Et une fois de plus, voilà, je pense que je me suis liquéfiée. Mais finalement, ça s'est bien passé. On m'a effectivement rappelé aussi.
Benoît.
Alors vous êtes toutes les deux comédiennes, et donc quand on vous a demandé de choisir un son, vu que c'est le principe de cette émission, et bien toutes les deux vous avez fait des choix qui renvoient justement au théâtre ou au cinéma. Ça, alors pour vous, Frédéric Labussière, voici ce que vous avez choisi.
Hey, humiliating.
What I'm trying to say is that you're a delicate, experienced, exciting woman who I find attractive beyond comprehension. A woman who amazes me with a lack of belief in herself.
Donc, identification de ce son et sa signification, Frédéric Labussière ?
Eh bien, il s'agit du film de John Cassavetes, Opening Night, avec l'incroyable, merveilleuse Jenna Rollands. Je peux développer un petit peu ?
Oui.
C'est un film qui m'a transpercée, transcendée. C'est quand j'ai vu ce film pour la première fois, j'étais toute jeune, où je ne me suis pas dit « je veux être elle », mais je me suis dit « je veux tendre vers ça, je veux être comédienne ». Et je veux tendre vers cette humanité, vers cette fragilité, vers cette sincérité. Et le film raconte tout ça, c'est-à-dire qu'en même temps, il y a une pièce de théâtre dans le film, je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez vu le film. Je trouve que c'est l'un des films, après le F de Mankiewicz, qui montre le plus, de façon la plus subtile et intelligente, le théâtre. Cette femme vieillissante qui a du mal à se voir vieillir, qui est entre ces deux, le fantôme de cette jeune femme qui a été renversée sous la pluie, qui était une de ses admiratrices, et l'auteur de la pièce qui est une vieille femme, et elle est tiraillée. Elle se voit partir vers cette nuit, parce qu'Opening Night, si on traduit, c'est la première en américain, c'est la première d'un spectacle, mais c'est aussi une nuit qui s'ouvre. Et voilà, elle est juste... J'ai dû voir ce film 50 fois et à chaque fois je pleure de bonheur et je reconnais la femme. Il y a une confusion des sentiments aussi. C'est John Cassavetes et Jenna Rollands à la scène comme à la ville. Et la fin du film est juste parfaite dans le sens où donc elle n'arrive plus à monter sur scène puisqu'elle joue The Second Woman, la deuxième femme, mais l'autre femme aussi. Donc tout ce chemin vers la vieillesse et donc la mort, au bout d'un moment, forcément. Et elle s'enivre, elle disparaît toute la journée, elle se saoule, on l'attend, on ne sait pas. Et ce qui est génial, c'est que les spectateurs dans le film, dans le théâtre, ne savent pas si la pièce va avoir lieu. Mais la première fois qu'on voit Opening Night, on ne sait pas non plus. Donc on est dans la même situation qu'eux. Et elle arrive, elle est totalement ivre. J'ai su quelques années après qu'en fait... Elle fait partie de cette école d'acteurs studio comme John Cassavetes. Elle s'est réellement enivrée pour jouer cette scène. C'est-à-dire qu'elle s'est réellement mise en danger de laideur pour jouer cette scène où elle titube dans les coulisses. Elle arrive sur scène et elle décide en fait d'accepter cette mortalité, cette finitude, cette vieillesse. Et comment on voit qu'elle décide de l'accepter, c'est qu'elle se met à improviser. Et elle change complètement l'ordre des choses. Et évidemment, ça se termine avec une standing ovation. Et le public est là. Et elle est... je trouve cette femme... Oh, mais d'en parler, je suis émue. C'est quelqu'un
c'est ce que
qui... ouais, elle est vraiment... Mais dans tous ses films, elle est humaine. Voilà, je trouve que c'est quelqu'un de profondément humain. Et en même temps, c'est une actrice... Elle n'est pas dans le... Voilà, j'ai trouvé. Elle ne paraît pas. Jamais. Elle est.
Quant à vous, Émilie Blond-Metzinger, voici ce que vous avez choisi comme son.
Calculer, avoir peur, être blême, aimer mieux faire une visite qu'un poème, rédiger des placés, se faire présenter. Non, merci. Non, merci. Non, merci.
Mais chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre. Avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre quand il vous plaît son feutre de travers pour un oui, pour un non, se battre ou faire un verre.
La raison de ce choix, Émilie Blond-Metzinger, chouette comédienne aussi.
Oui, c'est là où je me retrouve par rapport à Frédéric, c'est que c'est pareil, ce film, je ne sais pas combien de fois je l'ai vu, mais à l'époque c'était, enfin je sais pas, j'avais 8-9 ans quand il est sorti, et j'ai dû l'enregistrer à la télé quelques années après quand il passait, et ma VHS, la bande était blanche, la scène du balcon, la scène du nez, les non merci, à la fin, comme vous la lisez cette lettre, c'était blanc, c'était devenu transparent, je crois que je connais chaque intonation de ce film, je trouve Depardieu incroyable. Là, c'était la scène entre Le Bret et Cyrano de Bergerac. Philippe Morier Genoux est incroyable. Je crois que c'est Jean-Claude Petit qui a signé la musique. Enfin, ce film est une... et a été un véritable chamboulement pour moi. Je trouve, voilà, en plus que Depardieu a une partition incroyable et ce texte de Rostand, et je pense que je pourrais jamais m'en lasser, que c'est un des plus beaux textes de la littérature française, bon, théâtrale bien sûr, mais voilà, c'est vraiment somptueux.
À propos d'intonation, il y a un cahier des charges, j'imagine, pour FIP. On vous demande de poser la voix d'une certaine façon.
Emily Blunt, on croit à cette uniformisation.
Pas une uniformisation, c'est-à-dire peut-être il y a un ton, hein, de toute façon, il y a une identité musicale.
Il y a un ton, c'est sûr, mais après, moi, j'ai jamais eu de demande. Enfin, j'ai jamais eu de demande en me disant parle comme ci, parle comme ça, fais traîner. Et d'ailleurs, au contraire, je pense que quand je suis arrivée, j'avais cette idée de rentrer quand même dans un moule ou dans une idée préconçue de ce que moi, en entendant, j'avais envie de rendre en me disant ah oui, bon, on me fait confiance là-dessus, faut que je fasse pareil. Je laissais traîner mes fins de phrase, etc. On est revenu, on me dit tu sais, quand tu parles et que tu vas un peu vite, c'est aussi efficace, on t'entend, t'es naturel. Donc, j'ai pas eu de demande particulière sur un ton.
Frédéric Labussière non plus ?
La seule demande qu'on ait eue, dès le départ, c'était la liberté. C'était d'être ce qu'on est, en fait.
Le rendez-vous, la session.
C'est vous d'ailleurs, Frédéric Labussière, qui avez refait l'habillage de notre émission. Tout de suite, c'est la session du vendredi, du live ce soir.
Oui, une session dans l'esprit de FIP programmée par Lucille Como. Et on reçoit donc ce soir le Agathe Jazz Quartet. Agathe Iracema, jeune chanteuse d'origine brésilienne, fille de musicien. Elle suit partout ses parents, plus jeunes, dans les petites salles et les clubs de jazz parisiens. Elle se nourrit. Et aujourd'hui, elle livre un premier album métis, Feeling Alive, paru chez Nucklang. À la fois des grands standards du jazz américain, l'album s'ouvre notamment avec Gershwin, des compositions d'inspiration brésilienne avec des rythmes latins, et des créations qui regardent même vers la pop. On l'écoute en direct du studio 108 tout de suite dans un classique, Don't Go Strangers, chanté par Etta Jones, notamment dans les années 60. Agathe Iracema est au chant, Christophe à la contrebasse et Pierre-Alain à la batterie. Agathe Jazz Quartet.
La session est filmée.
C'est à vous.
He said, build your dream to the stars above, but when you need someone true to love, don't go to strangers, darling, come on to me. Play with fire till your fingers burn, and when there's no place for you to turn, don't go to strangers, darling, come on to me. For when you hear a call to follow your heart, you follow your heart, I know. I've been through this old, yes, I'm an old hand. Stand if you go, so make your mark for your friends to see, and when you need more than company, don't go to strangers, a darling. Come on to me. Mon délire pour te, sur le tour, pour te glisser,
Follow your heart, you'll follow your heart, I know. I've been through the soul, guess I'm an old hand. I'll understand if you go. Make your mark for your friends to see. But when you need more than company, don't go to strangers, darling. Come on to me.
Merci. C'était le Agathe Jazz Quartet avec Agathe Iracema au chant, Christophe Valem à la contrebasse, Pierre-Alain Tocani à la batterie. L'album Feeling Alive paraîtra le 24 mars prochain chez Nucklang. En attendant, vous pourrez les entendre le 6 mars à Mont-de-Luel, puis le 3 avril au New Morning à Paris. Pour info, donc, je reprécise Laurent que cette session était bien filmée, que vous pourrez donc la retrouver sur le site de l'émission avec, en bonus, un inédit.
Encore ?
19-20, le rendez-vous, c'est sur France Culture.
Plateau Carrefour avec vous, Frédéric Laudéon, musicien et animateur de radio, découvert au violoncelle dans les années 70, notamment dans les émissions de Jacques Chancel sur RFR3, puis chef d'orchestre. Vous êtes l'une des voix de la musique classique à la radio et à la télévision, de France Inter à France Musique, avec votre célèbre magazine musical Le Carrefour de l'Odéon, et puis sur France 3 pour Les Victoires de la musique classique. Avant de revenir sur ce parcours, d'abord une question aux mélomanes et aux musiciens. Radio France vient d'ouvrir son nouvel auditorium, la Philharmonie de Paris a elle aussi ouvert ses portes. Que pense le musicien et le spectateur averti que vous êtes de ces deux lieux, tant au niveau bien sûr de l'acoustique que de leur architecture respective ?
C'est très réussi dans les deux cas. C'est-à-dire que l'acoustique est magnifique, c'est ce qui m'intéresse le plus, moi, parce que, bon, évidemment, l'esthétique, c'est bien aussi, mais ça sonne magnifiquement. Il y a une différence de capacité, évidemment, 1400 places ici à Radio France, 2400 à la Villette, enfin, dans la Philharmonie, mais c'est magnifique. Est-ce qu'on va pouvoir faire vivre les deux en même temps ? C'est ça la question, parce que ce sont deux temples nouveaux qui nous manquaient un tout petit peu, mais ils sont arrivés simultanément. Alors, qu'est-ce qui va se passer du point de vue économique, puisqu'on ne nous parle que de sous ces jours-ci, en disant qu'on n'y arrive pas plus. Alors bravo, c'est formidable, mais après il faut que des génies se mettent à réfléchir pour remplir ces salles, pour les faire vivre et amener le public.
Benoît.
Alors jusqu'à l'an dernier, Frédéric Laudéon, vous animiez pendant une heure le Carrefour de l'Odéon sur France Inter. Aujourd'hui, vous l'animez deux heures durant sur France Musique, entre 16h et 18h. Est-ce que ce changement de format et de chaîne a-t-il fait évoluer l'émission ?
C'est la prolongation, j'ai dit, le Carrefour a déménagé et s'est agrandi. C'est-à-dire que sur France Inter, je faisais une émission pour toucher tous ceux qui ne connaissaient pas la musique ou en avaient peur. Et puis, les gens se sont habitués après 22 ans de présence. Et après, cette décision, c'est pas moi qui l'ai prise. En fait, on m'a demandé de venir sur France Musique pour faire monter l'audience. Donc, j'ai accepté. Et la directrice, Marie-Pierre de Surville, m'a dit, je voudrais que vous soyez le fer de lance. Ça m'a motivé. Je dois dire que sur France Inter, une précédente direction ne s'est pas beaucoup intéressée à mon émission, voire même a été un petit peu hostile. Donc là, j'ai été accueilli à bras ouverts.
Comme
j'ai
eu envie.
Pardon ?
Comme un roi.
En tout cas comme un compagnon du devoir qui peut amener de la force, une force supplémentaire, parce que j'ai 63 ans, je suis grand-père, mais comme un de mes amis m'a dit, tu as encore dû chercher le mot, il m'a dit du gasoil. Admettons. Encore, en tout cas, l'énergie et l'envie de le faire. Et j'y suis allé à fond. Et depuis le début, c'est vrai qu'il y a eu deux vagues de sondages. Elles ont été très favorables pour Carrefour de l'Odéon. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer maintenant, mais en tout cas, je suis sûr de pouvoir le faire aussi sur France Musique. Le format format, j'ai pas tout à fait répondu, effectivement, est le même pour ce qui est de la première heure, c'est-à-dire des morceaux plutôt courts, plutôt rapides, enjoués, dynamiques.
C'est et ça puis, qui avait véritablement fait la force de votre émission depuis le départ.
Oui, hein. Et puis le côté...
Côté très séquencé.
Le côté proche des gens, c'est-à-dire un discours qui est le même, c'est le même que je tiens au Café des Ondes à côté à mes amis, où je partage avec mes copains au restaurant, mes copines, évidemment. Et puis, et en même temps, quelque chose de rapide, effectivement. Et la deuxième partie, sur France Musique, me permet d'aller plus profondément dans des œuvres, de développer aussi des thèmes et d'aller prendre des morceaux qui durent quelquefois 10 minutes, 12 minutes, ce que je ne pouvais pas faire du tout sur France Inter.
La musique classique a aussi sa place hein, sur FIP. Est-ce qu'il y a des quotas, justement ? Est-ce qu'il doit y avoir une place particulière accordée à la musique classique par heure, par exemple ? Est-ce qu'on doit passer un... Oui, Frédéric Labussière ?
Oui. Oui, on a un titre classique par heure. Après, je crois, Émilie, tu vas me dire, le programmateur qui va faire... Les programmateurs travaillent sur une durée de 3 heures de programme.
Ouais.
Ils doivent avoir un titre classique par heure, mais je crois qu'ils le mettent à peu près à l'endroit où ça les arrange par rapport
oui.
à ce qu'il y a avant,
oui.
après.
Ça, oui.
Émilie,
et avant, il y avait un programmateur classique.
Une programmatrice, Muriel.
Oui, et puis après, il y a eu Julien.
Ah, t'as pas connu Muriel ?
Non, j'ai pas connu.
Oh mon Dieu. Ça me rajeunit pas tout ça, madame.
Et maintenant, c'est oui, Julien, bien pas. Aimé. Mais qui, c'est
j'assume, j'assume, Laurent.
Benoît.
Quand on est sur France Musique, Frédéric Lodéon, quel équilibre faut-il avoir entre musicologie et programmation
musique.
Musicale
vous
exigeante
avez failli dire
Oui, j'ai failli faire comme vous.
C'était un hommage.
C'est l'influence.
Voilà. Bien, écoutez, le principal dans tout spectacle, c'est de ne pas ennuyer les personnes qui sont devant vous ou bien qui vous écoutent. C'est la principale règle. Pour le reste, eh bien, il faut faire entendre des musiques accessibles à tous. Moi, je ne passe pas pour l'instant de Xenakis, on n'a pas besoin de moi pour entendre des musiques aussi avancées, ou je ne sais pas si c'est vraiment avancé, mais en tout cas dissonantes.
Et... Avec le discours que vous avez, justement, je pense que vous pourriez même pouvoir les programmer.
Sauf que j'en ai pas envie du tout. Parce que pour moi, par exemple, Xenakis, je l'ai joué au violoncelle et il y avait des choses qui n'étaient pas jouables. C'est-à-dire qu'il a écrit des notes qui n'existaient pas sur le violoncelle. Donc je pense qu'il y a eu un engouement autour de certains compositeurs. Certains pensaient que c'était un architecte, les autres pensaient que c'était un musicien. Et il a eu son effet, il a existé vraiment, il a fait des choses formidables, d'une très grande force. Mais enfin, moi j'aime bien la musique faite par des gens qui connaissent vraiment l'écriture et qui écrivent des choses qui sont réalisables sur un instrument que j'ai joué pendant des années, le violoncelle, ou quand je dirige maintenant, qu'on peut vraiment demander à des instrumentistes que ce ne soit pas un effet. Un peu, on se dit c'est une sculpture musicale. Maintenant, je préfère une partition musicale. Et je crois qu'il ne faut jamais ennuyer. Donc, on peut dire des choses très précises, très pointues. Mais si vous dites une symphonie de Mozart, Köchel de 420, tout le monde s'en moque. Si vous décrivez l'œuvre avec sa vitalité, ce qui s'est passé dans la vie de Mozart, au moment où il l'a écrite et pourquoi, etc., ça intéresse beaucoup plus. Et puis, sur le site internet, on peut mettre le numéro de catalogue Köchel pour ceux qui veulent vraiment retrouver du point de vue musicologique. Pas trop de musicologie. Il faut beaucoup de passion, beaucoup d'amour de la musique et la volonté de la transmettre. Et puis, pour le reste, il y a des bouquins, il y a le site, on peut voir ça. Mais moi, je suis pour le partage, je suis pour raconter. Je dis toujours que mon émission musicale n'est pas seulement une émission de diffusion, c'est aussi une émission de narration.
Comment le violoncelle s'est imposé dans votre parcours ? Votre père enseignait la musique, vos frères et sœurs jouaient du violon et du piano. Vous, le violoncelle, comment ça s'est choisi ?
C'est ma maman, voilà.
Qui a choisi pour vous ?
C'est comme j'étais très timide. Elle a dit, ben, tu vas jouer... Mon frère jouait du violon, il en joue toujours. Mon père jouait du piano. On a dit, ça fait un trio d'avoir un violoncelliste, c'est bien. Toi, tu vas jouer du violoncelle parce que tu es timide. Et ma maman disait, ben, ça, tu seras caché par ce gros instrument. Tu seras protégé. C'est pas beau, ça, quand même. Et puis, il y avait un très beau professeur, excellent professeur à Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais. On avait déménagé. Mon père avait été nommé directeur de l'école de musique. Ce monsieur était très sévère, mais c'était le meilleur professeur. On m'a dit, toi, t'es le plus sage de la famille. On est une famille de 6 enfants. J'étais à l'époque le plus sérieux. Ça a beaucoup changé, évidemment. Donc, j'ai accepté cette sévérité. Et ce professeur m'a dit, au bout de quelques années, tu es vraiment fait pour ça. Il faut absolument que tu ailles à Paris. Et contre l'avis de ma mère, qui aurait préféré que je sois prof de lettres parce que j'aimais bien écrire, parler, etc., eh bien, je suis allé au conservatoire. Je suis entré à 15 ans. Puis après, elle a dit à toutes ses amies, c'était elle qui m'avait poussé à jouer du violoncelle, alors qu'elle s'est presque battue physiquement avec Albert Tétard, mon professeur, pour que je ne fasse pas de musique. Chère maman, je t'embrasse quand même là où tu es.
Dans le milieu des années 70, vous allez devenir un régulier du Grand Échiquier, l'émission de Jacques Chancel. À ses côtés, vous allez apprendre à devenir un pédagogue de la musique classique. Qu'est-ce que vous avez mis en place à ce moment-là qui nourrit aujourd'hui votre façon de faire de la radio ?
Tout. C'est-à-dire que c'est Jacques Chancel qui m'a montré que j'avais ces capacités, parce que j'ai remplacé un violoncelliste souffrant à l'époque, en 75. C'était Maurice Gendron qui devait jouer avec Yehudi Menuhin, et il n'était pas là. Alors Bruno Mont-Saint-Jean, qui est un grand cinéaste musical, musicale, a dit à Yehudi Menuhin, parce qu'il le connaissait très bien, il faut engager l'Odéon, je connais, je l'ai filmé récemment, une petite pièce de Mendelssohn. Je suis arrivé tout timide, j'avais acheté un beau costume qui me serrait un peu trop, mais pour plaire à ma grand-mère qui regardait l'émission. Et puis, Yehudi Menuhin a dit à Jacques Chancel, il faut réinviter ce jeune homme. Je passe sur les détails, mais après, une deuxième émission en mars 76, le printemps des jeunes, et là, il y a eu des centaines de lettres en disant, ce jeune homme est formidable. Mendes France, Pierre Mendes France a vu l'émission, il a dit, je souhaiterais que tous les jeunes français soient aussi enthousiastes que ce jeune violoncelliste. C'est pour ça que j'ai joué à ses obsèques d'ailleurs, parce que sa veuve m'a fait rechercher en souvenir de ce qu'avait dit son mari. Et après, un jour, j'ai dit à Jacques Chancel, parce qu'un journal de radio-télé et de culture avait dit, mais c'est toujours les mêmes qu'on voit au Grand Échiquier, on entend toujours
Rostropovitch, Mireille Mathieu,
Rostropovitch quand faisait Chancel, Ruggiero Raimondi, il y avait tout ça, Raymond DeVos, ça. Moi j'ai Menuhin. Joué avec Julien Clerc, Menuhin, tout ça, Laurine Mazel, et tous les...
Barbara Hendricks, j'ai l'impression de les voir défiler.
Mais exactement, voilà, vous avez vu le Grand Échiquier, et j'ai demandé à Jacques Chancel, mais pourquoi vous m'invitez si souvent? Il m'a dit, bah tout le monde sait que tu sais jouer du violoncelle, mais surtout, tu as toujours quelque chose à dire, si jamais il y a une panne de caméra, s'il y a une corde qui casse sur un violon, s'il y a un piano à déplacer, je me tourne vers toi, et tu as toujours quelque chose à raconter. Voilà pourquoi, et c'est comme ça que j'ai su par Jacques Chancel que je pouvais faire ce métier de radio ou de télé.
Voici le son que vous avez choisi, Frédéric Lodéon.
Ça calme.
Identification de ce son. Ah oui, ça calme. Identification de ce son et sa signification pour vous, Frédéric.
Alors, j'avais pensé d'abord à Rostropovitch jouant devant le mur de Berlin en 89, et on m'a dit non, c'est un peu trop proche de ta profession. Alors, je dis, bah alors, quelque chose que j'aime aussi énormément, c'est l'eau en général. C'est-à-dire que j'étais pêcheur avec un accent circonflexe depuis l'âge de 5 ans, et puis après, ça, j'ai pris l'autre accent aussi avec moi. Mais donc, j'aimais l'eau toujours, toujours. J'ai adoré ça. J'ai adoré imaginer, voir les poissons, parce que les poissons, vous les voyez quelquefois, mais souvent, vous les devinez. Et quand vous allez à la pêche, ben vous savez que derrière tel rocher, sous une cascade, il peut y avoir une truite. Enfin, c'était un monde intérieur quand j'étais plus jeune. Et ça me permettait de rêver dans la nature et dans le silence. Et j'aime toujours l'eau. Ça aurait pu être aussi le son pris sur une plage avec les mouettes. Vous savez, c'est l'évasion. Quand je ne travaille pas, je travaille beaucoup. Et ben, c'est mon moment de bonheur, de détente. Et vous savez, au bord de l'eau, il y a des ions négatifs. C'est-à-dire que physiquement, ça vous calme. Alors moi, c'est le son que j'aime. Mais j'aime aussi le vin. J'aime beaucoup le son d'une bouteille qu'on débouche. Mais c'était un peu plus bref. C'était moins significatif.
Il est 19h50 sur France Culture. Stanislas Vazak, FIP Actualité.
Bonsoir. Un contrat historique bouclé en un temps record. Dassault Aviation a enfin trouvé un acheteur pour son Rafale. L'Égypte qui va acquérir 24 exemplaires de l'avion de chasse français. Montant du contrat 5 milliards d'euros avec en prime une frégate et des missiles. L'organisation Human Rights Watch dénonce cette livraison d'armes à un pays, l'Égypte, connu pour son régime répressif. Au moins 18 morts en Ukraine depuis la conclusion de l'accord de Minsk. Les séparatistes pro-russes bombardent la ville de Debaltseve où sont assiégés plusieurs centaines de soldats ukrainiens. Ils cherchent à s'emparer de ce site stratégique avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu dimanche à minuit. Roger Hanin a été enterré en Algérie aujourd'hui au cimetière juif de Sainte-Hélène d'Alger, devenu Bologhine après l'indépendance. L'acteur, mort mercredi à l'âge de 89 ans, voulait reposer dans sa terre natale auprès de son père. Il est rarissime qu'un pied noir manifeste le souhait d'être inhumé en Algérie. Seuls 300 juifs environ vivent encore en Algérie. Ils étaient 130 000 à la fin des années 50. Dans le Doubs, dimanche dernier, la moitié des électeurs UMP ont voté Front National au deuxième tour de la législature. Partielle. C'est ce qu'affirme le chercheur Joël Gombin dans une étude. Le candidat socialiste l'avait finalement emporté face à son adversaire FN. Après l'élimination de son candidat au premier tour, l'UMP avait appelé au ni-ni, ni le PS, ni le FN. Un mot de la météo demain, pluvieux sur presque tout le pays, avec de la neige sur les Alpes et les Pyrénées, des 1000 mètres d'altitude en moyenne. Les températures maximales seront douces dans l'ensemble.
Merci Stanislas Vazak. On vous retrouve à 22h pour le journal de la rédaction sur France Culture. À tout à l'heure. Pourquoi le journal Le Rappel des titres sur FIP est toujours à moins 10 et pas à l'heure pile ? Émilie Blond-Metzinger, Frédéric Labussière.
Je suis pas sûre de pouvoir répondre de manière absolument technique à cette question. Je sais que en fait, les journalistes qui travaillent sur FIP travaillent également sur Sophia et je crois que c'est une histoire de délai pour pouvoir être dans les temps et pour leurs journaux annoncés sur Sophia et FIP, mais je suis pas sûre.
Frédéric Labussière, une autre version.
C'est un prétexte, je pense.
C'est-à-dire
ouais, pour être décalé. Oui, je pense qu'on est toujours dans ce décalage. C'est notre philosophie et notre
mode, notre moteur, et on veut être tout le temps à décaler, même sur les infos. Micro dans 40 secondes.
Pourquoi pas, si ça peut t'intéresser.
D'accord.
France Info, 6h45.
Bonjour, vous écoutez FIP, il est 7h.
C'est très réussi dans les deux cas.
Merci à nos invités, Émilie Blanc-Metzinger et Frédéric Labussière. On peut vous retrouver sur FIP. Frédéric L'Odéon, Carrefour de l'Odéon, c'est du lundi au vendredi de 16h à 18h sur France Musique. Et je signale que vous serez le 26 février à la salle Rameau à Lyon pour présenter des musiques scandinaves. Agathe Jazz Quartet, l'album Feeling Alive paraîtra le 24 mars prochain chez Nuklang. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain,
cette équipe dit ce Libération-là que nous avons fait, qui est une grande chose, qui est vraisemblablement une des grandes choses des années 70, ce Libération s'arrête.
Demain, il faudra attendre lundi. Lundi, ce sera une émission journalisme et reporter de guerre avec Serge Julie et Hubert Picard. La désannonce, Émilie ?
Absolument. C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Lucille Como, Benoît Lagane, Aïssat Wendoy et Hippolyte Babilote. Journal de la culture et supplément week-end, Zoé Sfez et Benoît Lagane. À la prise de son, Alex Dong et Jacques Hubert. À la réalisation, Thomas Beau. Vous pouvez réécouter l'émission pendant 1000 jours et la podcaster sur le site franceculture.fr et rejoindre la grande famille du rendez-vous sur Facebook et Twitter.
Il est 19h54, vous êtes bien sur France Culture. Et tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès de la Comédie Française. Alors bonne soirée, bon week-end et bonne Saint-Valentin à Sousse.